L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en la vie, il nous atteint pour les péchés de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer les ciels en parchemin. Tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père, faire tarir les eaux et remplir la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant qui font entendre les anges et les chancelle avec ses trônes et ses rois. Ton nom, tous les rebelles soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant qu'il faut entendre les anges et les saints. Et je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort,
je suis fort,
fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et veux-tu briser?
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ.
Je suis fort,
je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang,
par le sang
de Jésus.
Oui. puissant de Jésus, mon sauveur.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la joie de Dieu demeure dans nos cœurs, que la paix de Dieu demeure dans notre vie, afin que nous soyons ceux-là qui expérimentent du jour au lendemain le bienfait qui vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Bonjour à tous. Nous disons merci à Dieu, celui-là qui nous donne le privilège de nous tenir devant vous aujourd'hui pour pouvoir conduire la méditation de sa parole que nous allons trouver dans trois livres. Le premier, c'est Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Le deuxième, c'est Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Et le troisième, c'est Jacques 2, 14 et 17. Si nous avons trouvé Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, je vais conduire la lecture. La Bible dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Allons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. La parole de Dieu dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin qu'une personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Terminons avec Jacques chapitre 2, versets 14 et 17. La Bible dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver ?» Verset 17. Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a point, elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, c'est la parole de Dieu. Alors, au travers de ce texte que nous venions de lire, nous voulons réfléchir ensemble sur le thème intitulé « Les alliés de la foi dans les plans de Dieu pour la vie d'un disciple de Jésus-Christ. » Les alliés de la foi. Dans les plans de Dieu pour la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Et ici, nous voulons focaliser sur les œuvres liées à la foi qui doivent être pratiquées dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Les œuvres de la foi, les œuvres liées à la foi, qui doivent être pratiquées dans la vie de quelqu'un qui se reconnaît comme étant un disciple de Jésus-Christ. Nous sommes dans la première semaine, le premier dimanche du mois de juin, et aujourd'hui, tout en gardant à l'esprit notre grand thème de l'année, qui est comment? Le grand thème de l'année, c'est quoi? Restaurer pour conquérir. C'est dans cette dimension de la restauration pour conquérir que s'inscrit le thème est le sujet de ce jour. Parce qu'après avoir été restaurés, nous sommes appelés à nous reconnaître en tant que disciples de Jésus-Christ. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes appelés à poser des actions qui deviennent des œuvres qui sont liées à notre foi et qui doivent témoigner de ce que nous sommes, de notre identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre vie des disciples de Jésus-Christ. Si nous revenons à Colossiens, nous allons savoir que c'est Paul qui écrit à Colossiens. Même s'il y a des discussions, des échanges, des recherches qui continuent entre les chercheurs théologiens sur l'identité de celui qui a écrit le livre d'Éphésiens, mais la tradition de l'Église accepte de reconnaître que c'est Paul, l'apôtre, qui avait écrit cette épître. Il l'a adressé à l'église de Colosse, mais il a recommandé que cette lettre ne soit pas seulement lue à Colosse. Il a recommandé que même l'église de Laodicée devrait avoir part au contenu de cette épître parce qu'il a estimé que c'est important qu'eux aussi puissent prendre connaissance du contenu de la lettre. En fait, Paul écrit lorsque Épaphras, qui était un compagnon d'œuvre de Paul et qui résidait à Colosse, il est venu voir Paul. Il lui a raconté des choses sur l'église de Colosse. Et parmi ce qu'il a raconté, il a d'abord loué la foi à laquelle ont adhéré les membres de l'église de Colosse. Mais il a ensuite ajouté que leur foi est mise à rude épreuve parce que cette foi court le danger d'être émiettée, d'être détruite. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette contrée à Colosse, qui était une ville très riche, qui était au carrefour de beaucoup de villes commerciales, alors cette ville recevait des gens qui venaient et qui venaient avec des prédications, des enseignements qui étaient contraires à ce qu'ils avaient déjà reçu lorsque l'Église a été créée, lorsque l'Église a été affermie pour qu'elle puisse croître. Qu'est-ce que ces faux enseignants sont venus dire? Ils ont commencé à enseigner à l'Église, aux membres de l'Église, que avoir la foi en Christ ne suffit pas. Mais il faut ajouter à cela la sanctification. Mais de quelle sanctification ils étaient en train de parler? C'est qu'il faut priver le corps de tous les soins parce qu'il faut qu'ils maîtrisent le corps pour pouvoir plaire à Dieu. C'est comme ça qu'ils étaient en train de s'infliger des mortifications. Ils ne pouvaient plus prendre soin du corps parce qu'ils disent que le corps, c'est la matière, et le corps, c'est ce qui favorise les péchés. Et si on inflige des punitions au corps, il est possible qu'on puisse vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des personnes qui, même jusqu'à aujourd'hui, ils pensent que la foi en elle-même ne suffit pas et qu'il faut se mortifier. Il y en a d'autres même qui acceptaient de se faire flageller au nom de Jésus-Christ pour gagner la faveur de Dieu. Alors, Paul a dit non. Vous devez savoir où est-ce que vous avez commencé avec la foi. C'est-à-dire, la vie chrétienne est déjà tracée dans la Bible. Si vous recevez des personnes qui veulent vous dire comment vous allez vivre la vie chrétienne et ils vous disent des choses qui ne sont pas correctement écrites dans la parole de Dieu qui est la Bible, alors faites attention parce que vous risquez de commencer à vivre une soi-disant vie spirituelle de sanctification qui n'en est pas une. Amen. Amen.
Alors, lorsque Paul reçoit ce rapport, il trouve que la foi des enfants de Dieu en Colosse est en danger. Parce qu'ils sont en train de commencer à pratiquer des choses qui sont en dehors des enseignements des apôtres. Il est vrai qu'il faut qu'on puisse faire ce que le Seigneur nous demande de faire pour gagner sa faveur en prière et en d'autres choses. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sortent de la ligne droite de la parole de Dieu et il ne faut pas y prêter attention. Alors, lorsqu'il leur parle, il commence ses enseignements au verset 6 de Colossiens 2. Ou alors, il va commencer à leur dire des choses. Je voudrais que nous puissions y revenir un peu pour comprendre ce qu'il disait. Il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, faites quoi ? Faites quoi ? Marchez en lui. » Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et il continue au verset 7. Il dit, « Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Lorsque vous vivez la foi, lorsque vous allez entendre des personnes prêcher pour vouloir vous gagner à leur prédication, faites attention, essayez de vous poser la question, est-ce qu'ils sont en train de dire des choses qui sont en harmonie avec les instructions que j'ai reçues au début de ma foi, qui sont bien consignées dans la parole de Dieu? Il y a des prédicateurs qui viennent et qui disent, non, tout n'est pas écrit dans la Bible. Et il commence à dire des choses, à dire des choses, à dire des choses. Et ceux qui prêtent attention à ce qui se dit, ils déraillent de la foi et ils sont détruits. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises, entre guillemets, où on rassemble les gens et on dit aux gens, tu as été marié, c'est vrai, mais je t'informe que tu as été marié dans un mariage qui ne venait pas de Dieu. C'est lui que tu as. Ce n'est pas celui-là ta femme. Celle que tu as, ce n'est pas celle-là ta femme. Celui que tu as, ce n'est pas celui-là ton mari. Et il propose une alternative en disant, voici maintenant celui que Dieu a préparé pour toi. Ils sont nombreux aujourd'hui dans cette ville, les foyers qui sont détruits parce que tout simplement, ils ont prêté oreille à des enseignements comme ça. Ça s'est passé à Colosse. Et c'est cela que Paul veut régler dans sa lettre. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Seigneur quand vous avez commencé votre vie de foi? Si oui, alors marchez en lui. Je voudrais revenir sur deux éléments dans ces versets. Là, le premier élément, il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième élément, le premier c'est recevoir Jésus. Le deuxième élément c'est marcher en Jésus-Christ. Alors, si nous revenons au concept grec qui a été traduit par « recevoir », ça signifie « entrer en possession de quelque chose que vous n'aviez pas, mais dont vous aviez tellement besoin. » Amen. Recevoir, c'est ça. Entrer en possession de quelque chose que vous n'aviez pas, mais dont vous aviez tellement besoin. Jésus, lorsqu'il est en dehors du cœur d'une personne, cette personne peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle n'aura jamais la paix du cœur. Elle n'aura jamais l'assurance de son salut. Elle ne sera jamais convaincue que si le ciel s'ouvre maintenant, il peut entrer. Alors, il faudra que je puisse le recevoir dans mon cœur. Et quand je le reçois dans mon cœur, je lui demande de me laver par son sang, de me purifier, de demeurer à moi, de conduire ma vie comme celui qui doit devenir mon roi et mon maître, mon Seigneur.
Alors à partir de ce jour-là, je peux dire que j'ai reçu Jésus. Et ce ne sont pas des paroles qui passent par la tête seulement. Ce sont des paroles qui engagent le cœur. C'est à cause de cela qu'Apocalypse 3:20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. » Si vous avez déjà fait ça, alors vous êtes parmi ceux-là à qui il est demandé, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Alors la marche, c'est quoi? Le terme qui a été traduit par marcher signifie se conformer, signifie ajuster sa vie, signifie adapter sa vie, signifie harmoniser sa vie, harmoniser ses réactions, ses actions, harmoniser sa conduite avec la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Quand il dit « marcher en lui », il voudrait que nous puissions savoir que lorsque Dieu a parlé au travers de sa parole, il nous a dicté la ligne de conduite pour notre vie. Marcher à côté de cette ligne de conduite, c'est ça, pécher contre Dieu. C'est marcher loin de la volonté de Dieu. Alors, cette adaptation, je vais souligner une chose qui ressort de la signification qui est là. Nous devons, en tant que disciples de Jésus-Christ, faire attention à notre manière de vivre. Nous devons faire attention avec notre manière de vivre parce que c'est nous qui devons nous courber devant ce que Dieu veut. Ce n'est pas à nous de demander à Dieu de se courber devant ce que nous, nous voulons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'en fait, la vie chrétienne n'est pas cette vie où nous disons Munguna ni mutu atakomprendre gisi vile njomi niko. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu te demande de quitter ton ancienne vie, de migrer, de commencer à vous courber, d'harmoniser votre vie, votre conduite, vos actions, vos réactions avec la volonté de Dieu. Ne pas vouloir harmoniser la volonté de Dieu avec ta vie. C'est à nous de nous soumettre à Dieu, de nous plier devant la volonté de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de plier sa volonté devant notre volonté. Nous n'avons pas le droit de vivre comme nous nous voulons, mais nous devons nous adapter à la manière dont Dieu veut que nous puissions vivre. C'est ça, marcher en Christ. Amen. Amen. Donc, lorsque nous marchons dans cette vie chrétienne, la vie de foi, c'est ça la grande question que nous devons nous poser pour savoir, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire ou je suis en train de vouloir que Dieu accepte ce que moi j'ai fait comme étant sa volonté? Vous n'êtes pas la norme. Vous n'êtes pas la norme de la conduite. C'est Dieu qui nous donne la norme. C'est Dieu qui nous donne la règle. C'est Dieu qui dit, si vous allez à gauche, alors là, vous faites un péché. Si vous allez à droite, alors là, vous faites ma volonté. Et lorsque nous déraillons, Dieu n'a pas besoin d'explication pour dire, bon, comprenez vraiment, c'était difficile, alors c'était difficile. Nous devons savoir que même si nous avons des explications à donner, ce n'est pas à Dieu que nous avons à expliquer les choses. Dieu est souverain et il voudrait que nous puissions marcher à sa suite en considérant que c'est lui qui nous dicte la ligne de conduite et que ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il faut qu'il sache de notre vie. Et c'est ça le disciple. Le disciple qui est celui qui apprend d'un maître. Le disciple qui est celui qui suit les enseignements d'un maître, avec l'objectif d'adopter les idées et les principes de son maître pour qu'un jour, il devienne comme son maître. Et c'est à cause de ça que la Bible nous dit, d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. Alors, je voudrais que, si je reviens à Éphésiens, il dit, nous sommes sauvés par quoi? La grâce au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un ne puisse pas se glorifier. Et au verset 10, il ajoute en disant, Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il a préparé des bonnes œuvres d'avance. Et ces bonnes œuvres, nous devons les pratiquer. Alors, si vous voyez ce qui est dit dans Jacques chapitre 2, versets 14 et 17, vous avez un autre son de cloche où il est dit, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Cette foi ne peut pas sauver quelqu'un. Alors ici, je vais chuter en disant, en soulignant qu'il y a deux sortes d'actions qu'on appelle œuvres de la foi, mais qui ne se ressemblent pas. Et il faudra que nous puissions comprendre la portée de chacune de leurs spécificités pour que nous puissions savoir comment le Seigneur veut que nous puissions nous comporter quant à ce qui est des œuvres qui sont liées à la foi. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie des actes de foi. Les actes de foi et les œuvres de la foi. Actes de foi. Je vais vous donner des exemples. En fait, un acte de foi est une action qui est engagée par une personne afin de matérialiser visiblement ce qu'il croit dans le monde invisible. Je reviens. Un acte de foi est une action qu'une personne engage pour rendre matériel, pour matérialiser ce qu'il croit en lui dans le monde spirituel et invisible. Peut-être vous pouvez ne pas comprendre, mais je vais y arriver par des exemples. Et avant de passer aux exemples, je voudrais dire qu'un acte de foi est ce qui inaugure une nouvelle saison dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Vous n'allez pas entrer dans une nouvelle saison spirituelle dans votre vie si vous n'avez pas posé un acte de foi. Amen. Amen. Alors, souvenez-vous d'Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Je ne vais pas lire, mais je vais vous dire ce qu'il y a là. La Bible dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreux 11. On parle d'Abraham. Abraham, la manière dont la Bible parle d'Abraham ici, il dit ceci. Abraham a cru. Lorsque Dieu lui demande de lui accorder, de lui donner son fils à le tuer, le sacrifiant, Abraham a cru. Il est allé sacrifier son fils. Il a pris, il voulait l'égorger. Mais la Bible nous donne son secret qui était le fondement de sa foi. La Bible dit ceci. Abraham avait reçu les promesses au travers de son fils Isaac. Je te bénirai au travers de ses fils. Je ferai de vous une multitude de peuples comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Alors, Abraham a cette promesse et il sait que Dieu avait dit que c'est à partir d'Isaac que je vais te bénir, mais pas à partir d'Ismaël. Parce qu'Ismaël était aussi fils d'Abraham, mais Dieu dit expressément, ce n'est pas par Ismaël que moi je vais te bénir, je te bénirai au travers d'Isaac. Alors, quand Dieu dit à Abraham, « tu dois égorger ton fils pour me le donner en sacrifice. Abraham, il est un peu perturbé. Il dit, bon, Dieu m'a dit qu'il va me venir au travers d'Isaac et il me demande de le tuer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors, dans sa foi, la Bible, dans cette partie que j'ai donnée, la Bible dit, Abraham a cru dans le monde invisible, dans sa relation avec Dieu, dans sa concertation avec Dieu. Il a dit, Dieu me demande Isaac, je vais l'égorger. C'est lui qui me demande de l'égorger. J'y vais, je l'égorge. Mais je sais, je crois. On sait que Dieu qui a dit qu'il va me bénir au travers d'Isaac, donc si j'arrive à le tuer, je vois son sang couler, il meurt. Je suis sûr que Dieu va le ressusciter pour pouvoir me bénir au travers d'Isaac ressuscité. Alléluia. C'est ça sa foi. Si vous analysez la parole de Dieu, vous n'allez trouver nulle part où on prêche Abraham sur la résurrection. Il n'avait jamais entendu parler de résurrection. Mais dans son intimité avec Jésus, avec le Seigneur, parce qu'en recevant Jésus, nous chrétiens, nous engageons dans une relation d'intimité avec Dieu. Nous avons la possibilité de nous concerter à chaque moment, devant chaque circonstance avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut croire pour poser un acte de foi. Abraham a cru, je vais l'égorger parce que c'est Dieu qui le demande. Sur sa parole, je l'égorge. Mais comme c'est à lui que je vais être béni, Dieu a dit, il va faire passer ma bénédiction au travers d'Isaac, alors je l'égorge, quand il sera mort, maintenant je vais dire, Dieu, souviens-toi de ta promesse, ressuscite-le, parce que c'est au travers de lui que moi j'attends ma bénédiction. Alléluia. Il avait la foi. Il a traduit cette foi en acte, et c'est cet acte qu'on appelle acte de foi. Et si Abraham est appelé, il est appelé père de quoi? De la foi, c'est à cause de l'acte de foi qu'il a posé. Et cela a opéré un tournant décisif dans sa vie. Il est entré dans une nouvelle saison spirituelle, une saison qui ne pouvait jamais venir s'il n'avait pas cru et s'il n'avait pas traduit sa foi en action. Amen. Alors, votre saison spirituelle, la nouvelle saison spirituelle qui va être inaugurée dans votre vie, demande que vous puissiez entrer en concertation avec Jésus. Si vous l'avez reçu et que vous marchez avec lui, en lui, alors il va vous dire qu'est-ce qu'il vous faut faire comme acte de foi pour déclencher la nouvelle saison dans votre vie. Amen. La Bible est pleine d'exemples d'actes de foi. Et la vie chrétienne, le salut commence par un acte de foi. Et toutes les grandes saisons qui vont arriver, qui vont être inaugurées dans votre vie, chacune d'entre elles pourra commencer avec un acte de foi. Je vois un autre, c'est plein, en tout cas la Bible est pleine. Je vois une autre femme. Dans Jésus chapitre 2, versets 17 à 19, on parle d'une femme qu'on appelle Rahab. Il y a quelqu'un qui disait, elle s'appelle Rahab Kahab, comme si Kahab c'était aussi français. Kahaba, c'est Swahili qui dit qu'elle était une prostituée. Ce n'est pas lié à son nom. C'est un qualificatif qui montre sa profession. Alors, Rahab a reçu les espions. Et les espions sont entrés chez Rahab, il les a soignés, il les a cachés. Et lorsque il les a fait partir, il a dit, je sais que vous allez détruire cette ville, mais je vous demande une chose, est-ce que vous pouvez m'épargner, moi et ma famille? Et les espions ont dit, alors cela dépend de toi. Voici ce que tu dois faire pour que nous puissions être acquittés de cette responsabilité. Si tu péris, ce sera à cause de toi. Si tu es sauvé, ce sera à cause de toi. Tu vas prendre une étoffe rouge, tu vas accrocher sur la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre pour que nous puissions prendre la fuite. Lorsque nous viendrons, nous verrons l'étoffe rouge et nous allons savoir que vous êtes là avec votre famille et votre maison ne sera pas détruite. Amen. Rahab a compris. Rahab a entendu. Rahab savait que c'est un message qui lui vient de Dieu. Elle a cru. Mais croire seulement sans agir ne pouvait jamais sauver Rahab. Il a fallu qu'elle pose l'acte de foi, qu'elle traduise ce qu'elle croit en action. Elle est allée prendre une étoffe, elle a lié l'étoffe sur la fenêtre, et lorsque les espions, l'armée israélite est venue, ils ont vu l'étoffe, ils se sont souvenus de la promesse, et ils ont protégé Rahab. Ils ont protégé Rahab et sa famille. Ils ont été sauvés. Ils n'ont pas été massacrés. Parce que l'ordre de Dieu était de dire, vous allez massacrer tous ceux qui bougent. Vous n'épargnez personne, vous tuez tout le monde. Alors tout le monde a été tué, sauf celui qui a traduit sa foi en action, Rahab et sa famille. Amen. Vous pouvez dire que c'était l'Ancien Testament. Mais si vous allez dans Marc chapitre 5, versets 25 à 29, vous allez trouver cette femme qui avait la maladie des sangs. Appelons ça comme ça. Parce que vous la connaissez, je n'ai pas besoin d'expliquer. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et dans son cœur, elle a dit, si je peux seulement toucher quoi ? L'extrémité de son habit, je suis sûr que je serai guéri. Amen. La foi était là. Elle a cru dans le monde invisible, elle avait déjà cru. Pour que la guérison arrive, il fallait qu'elle traduise sa foi en acte, ce qu'on appelle acte de foi. Elle est passée parmi les gens, elle est allée toucher l'extrémité de l'habit de Jésus, et la Bible dit, à l'instant même, son mal, c'est ça. Amen. Ça, c'est vraiment les exemples que je voulais donner pour nous montrer que cette dame est entrée dans une nouvelle saison par un acte de foi. Rahab est entrée dans une nouvelle saison spirituelle par un acte de foi. Abraham est entré dans une nouvelle saison spirituelle par un acte de foi. Toi et moi, nous allons entrer dans des nouvelles saison de foi par un acte de foi. Amen. La deuxième catégorie des actes, des actions, des œuvres, c'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres montrent que nous sommes sauvés. Mais attention. Attention, parce qu'il est possible, je vais dire trois choses. Il est possible d'avoir des bonnes œuvres sans la foi, sans le salut. Mais il n'est pas possible d'avoir la foi sans les œuvres. Amen. Amen. Il n'y a pas d'excuse ici. Nous sommes appelés à avoir des œuvres si nous sommes dans la foi. Une deuxième vérité que je voudrais dire, c'est que nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. Nous sommes devant Dieu, nous sommes ce que nous faisons, mais pas ce que nous disons. Parce que vous pouvez bien dire, nous sommes chrétiens, mais il faut que Dieu vous voie en train d'être ce que vous faites, et non pas en train d'être ce que vous dites. Parce que si vous dites des choses, les choses que vous dites ne font rien, n'ont aucun impact sur vous. Mais ce que vous faites, c'est ça votre identité. Amen. Amen. Alors, il est question de vous poser la question, comment me connaît-on? Comment les gens me connaissent-ils? Est-ce qu'ils vous connaissent parce que vous dites si je vais Christ à Goma ville, si je tombe toi sadaka mingi, si je tous les gens gagnent ba pasteur. Je suis d'abord content, j'étais pasteur ici et je suis parti pendant environ 10 ans. Quand je suis arrivé, j'ai été émerveillé, je me suis posé est-ce que ce sont les mêmes fidèles que j'ai laissés ici? Parce que vous êtes brave. Vous avez construit la maison pastorale. Je ne pouvais jamais imaginer que nous puissions réaliser une grande œuvre comme celle-là. Quand j'étais ici, ceux qui étaient ici avec nous savent déjà que les salles de l'école de dimanche posaient même problème pour la construire. Mais quand je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé, j'ai dit, est-ce que c'est eux? C'était vous, n'est-ce pas? C'est vous? Il ne faut jamais rater une occasion comme celle-là. C'est une occasion d'or. Si vous y avez contribué, que le Seigneur vous bénisse. Alors, ici, la Bible dit, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions marcher dedans. Elles sont déjà préparées. La Bible en parle. Celui qui fait ceci, il fait bien parce que c'est la volonté de Dieu. Celui qui fait ceci, il fait bien parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, quand on nous demande de vivre, de marcher dans les bonnes œuvres, la Bible trace, la Bible nous indique quelles sont les bonnes œuvres que nous devons pratiquer parce que la Bible les a déjà identifiées. On ne va pas inventer la roue. Quand la Bible dit qu'il faut donner la dîme, nous la donnons parce que nous savons que ce sont des bonnes œuvres. Quand la Bible dit qu'il faut faire ceci ou cela, il faut visiter les orphelins, il faut donner à ceux qui sont dépourvus, nous savons que nous faisons ce qui est bien parce que c'est la Bible qui le dit. Donc vous voyez la différence entre un acte de foi, les actes de foi qui sont des alliés de notre foi dans les plans de Dieu pour nous, disciples de Jésus-Christ. Acte de foi, c'est différent de ce que nous appelons œuvre de foi. Enfin, il faut que je dise, en terminant, que nos actions enseignent beaucoup plus que nos paroles. Amen. Amen. Quand je me tiens ici, j'enseigne, vous pouvez être très content de ma prédication. Mais le Seigneur n'attend pas que je parle, que je parle, que je parle et que ça se termine là. Le Seigneur veut que je puisse poser des actions qui vont constituer mon identité. Qu'on dise, pasteur Lusenge est ABC, parce qu'on a vu ce que j'ai fait, je le vis. Parce qu'il est possible de dire des choses qu'on ne vit pas. Le Seigneur veut que nous puissions commencer à vivre ce que nous faisons, que nous soyons identifiés par ce que nous faisons plutôt que ce que nous disons. Parce que ce que nous faisons commence d'abord par des actes de foi qui vont nous faire marcher en Jésus-Christ au travers des bonnes œuvres qui ont été déjà établies pour que nous puissions marcher dedans. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole. Amen.